Bienvenue sur le podcast de l'Office National de Diffusion Artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Dans cet épisode, nous vous invitons à écouter Enora Boel, metteuse en scène, comédienne, autrice et fondatrice du Joli Collectif, et également co-directrice artistique du théâtre L'Air Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande, en compagnie d'Anne-Cécile Sibuet, secrétaire générale de l'ONDA. Artiste associée au théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy d'Anjou, Enora Boel a co-conçu avec Flop et Marc Lacour, artiste également associé au THV, la rencontre Enfance et Jeunesse intitulée Mettre la relation artiste et programmateur RIS en jeu. Elle revient ici sur des sujets soulevés lors du débat mouvant, proposés dans le cadre de cette rencontre en mouvement.
Merci Enora d'être avec nous dans ce studio improvisé au THV. On va, dans le cadre de ce podcast, possiblement naviguer entre tes doubles, triples, quadruples casquettes et peut-être changer de point de vue entre artiste, programmateur, RIS, coordinatrice et de voir comment tout ça se construit et s'entrelace. Hier, tu as proposé un atelier qui était un débat mouvant avec plusieurs questions qui étaient proposées aux participants, participantes, et on va retraverser certaines de ces questions. Le premier thème choisi pour cet atelier était autour de la colère. Quand on parle de colère, une des questions que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu fais de ta colère? Comment tu transformes cette colère? Et comment aussi elle se transforme peut-être selon les espaces d'action, que ça soit artiste ou programmatrice?
Il y a plusieurs endroits de colère, effectivement, qu'on a soulevé un peu dans ce débat. Il y a la colère du temps qui n'est pas extensible. Il y a la colère des politiques. Il y a la colère du contexte social. Et il y a la colère de comment faire une programmation dont on est fier. Donc, je dirais que ce que j'en fais, c'est d'essayer de faire du mieux que je peux et de me le rappeler que je fais du mieux que je peux, d'être exigeante avec moi et avec les autres, mais de lâcher aussi du mieux que je peux cette exigence-là. Quelqu'un a dit hier justement que, en fait, il y a un moment où on ne peut pas tout faire, en fait, parce qu'il y a trop par rapport à ce qu'on nous demande, ce qu'on attend de nous, ce qu'on se charge aussi de nous, de notre propre chef, en fait. C'est de savoir aussi peut-être, j'allais dire, apaiser ses envies. Alors du coup, c'est un peu une drôle d'expression, mais se réfréner parfois peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gourmandise aussi. Et ça, c'est chouette, la gourmandise, mais on se rend bien compte que tout n'est pas faisable. Donc voilà, je dirais que pour répondre brièvement, d'essayer du mieux que possible de se structurer pour pas réussir à tout faire, mais d'essayer de faire déjà ce qu'on a à faire bien, parce qu'on sait qu'on pourra pas tout faire.
Le deuxième thème du débat mouvant, c'était autour de l'interconnaissance. Je vois quelque chose de l'ordre d'un regard un peu oblique, c'est-à-dire pas du dessus, plutôt à côté, autour, avec. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'interconnaissance? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi il y a peut-être un endroit d'empathie aussi, de déplacement, de décentrement.
Oui, c'est complètement de l'empathie, en fait, parce que justement, pour revenir à l'idée de la colère, c'est que si on est parti sur ce thème-là, pour commencer, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de colère et du côté des programmateuristes par rapport au fait de cette accumulation de mails, de sollicitations, d'aller voir des spectacles, tout ça. Et moi, j'entends aussi très fort du côté des artistes, du ressentiment même parfois de « il ne m'a pas répondu, j'ai écrit 15 mails, il ne me répond toujours pas, il n'en a rien à foutre, nanana ». Et en fait, on sent que ça se tire un peu dans les pattes des deux côtés Et c'est vrai que moi, je me sens parfois un peu à l'endroit de l'arbitrage, de dire, attendez les gars, est-ce que vous avez conscience de ce que c'est que recevoir je ne sais pas combien de mails, de sollicitations, de ne pas pouvoir se déplacer, voir tout, parfois juste d'être fatigué et d'avoir envie d'être dans son canapé un vendredi soir. Et en même temps, effectivement, d'être à l'endroit de l'artiste qui voudrait... plus de regard sur son travail. Donc oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est, cette figure d'arbitre me paraît assez... Enfin, arbitre, après, ça me donne une grosse responsabilité, mais en tout cas, ouais, je pense que c'est important de rentrer dans les réalités des uns et des unes et des autres. Même si on m'a rappelé récemment que oui, mais les privilèges des programmateuristes ne sont pas les mêmes que les artistes et que les artistes ont besoin des programmateuristes pour manger. Ce qui n'est pas le cas des programmateuristes.
Dans ce que tu déposes et ce que tu as essayé de mettre au travail aussi avec notre groupe, il y a beaucoup de questions qui circulent autour de déconstruire les rapports de pouvoir, mais aussi comment celles et ceux qui sont invisibilisés peuvent être davantage visibilisés, la question des minorités. Comment toutes ces questions-là traversent ton travail de programmatrice? Et comment vous les mettez en jeu, sachant qu'effectivement, le chemin à faire est long et que le travail de déconstruction prend du temps aussi.
Ben ça, c'est ce truc d'équilibre de programmation, c'est vraiment un gros, gros casse-tête. Et c'est vraiment une bataille au quotidien. On est trois à faire la programmation à l'air libre et c'est des discussions qu'on a vraiment beaucoup ensemble. Et on essaye d'être aux mêmes endroits, mais on ne l'est pas toujours. C'est un vrai gros casse-tête. Et qu'est-ce que je mets en œuvre moi, là, au dernier festival d'Avignon, par exemple, je me suis donné la mission d'aller voir que des spectacles de personnes minorisées. Et c'est la première fois que je le faisais. Et ça change tout. C'est hallucinant. Ça change tout parce que d'un coup, tu as l'impression vraiment d'avoir des physiques, des propos, des thématiques qui émergent, qui sont un peu cachées, qui sont là, qui grondent en dessous, mais que si on tape le bon code sur la terre, hop, il y a des petites antennes qui sortent et on les voit apparaître. Mais il faut faire l'effort de taper au bon endroit et de taper le bon code. Et faire l'effort en tout cas. Faire cet effort-là.
Oui, et tu parlais aussi de la notion de curiosité. Et donc, c'est aussi une boussole, j'ai l'impression, dans ta pratique.
Oui, de curiosité. Et j'ai l'impression que c'est vraiment chausser des lunettes, qu'on est... Enfin, vraiment mettre une paire de lunettes. Parce que les mauvaises habitudes reviennent très, très vite. Le temps de la déconstruction est long, de toute façon. On se rend bien compte que chacune n'est pas du tout au même endroit. Et qu'il faut ressasser. Il faut donner des règles. Et quitte à être un peu directif ou autoritaire ou cinglant parfois.
On a eu, dans le cadre de la rencontre enfants jeunesse, la visite d'Infiltrés, qui sont un groupe d'enfants qui participent à la construction de la programmation du THV et qui aussi découvrent tous les métiers du THV. Tu parlais tout à l'heure, Enora, de la notion d'allié. Sur toutes les questions liées à la déconstruction, dit aussi beaucoup dans le secteur et peut-être, je dirais, plus à l'international qu'en France, que rien ne peut être déconstruit sans la participation des personnes qui sont elles-mêmes minorisées. En anglais, ça serait « not about us, without us ». Comment tu t'appropries ces notions-là? Est-ce qu'elles ont du sens? C'est qui tes alliés? C'est qui tes infiltrés? Il y a visiblement les artistes que tu suis, dont tu es très proche.
Moi, je sens qu'on est encore... Et c'est là qu'il faut mettre de côté sa colère, parce que je sens qu'il y a encore énormément de travail à faire. Par exemple, on a fait un séminaire d'équipe l'autre fois et on s'est posé les questions d'accessibilité à nos salles, de spectacles, de représentativité sur les plateaux, dans les équipes. Et en fait, oui, mais on est tous blancs. je pense qu'on aurait encore énormément à gagner en termes de trouver les bons alliés en fait. Oui, par rapport à ces jeunes programmateurices, je trouve ça super, mais c'est un gros projet aussi en soi. Nous, c'est des choses qu'on voudrait développer à l'air libre aussi, mais on n'a pas encore eu le temps de mettre en place.
Que serait le théâtre dans 50 ans ?
Le théâtre dans 50 ans, alors on est sur l'utopie, hein, pas sur la dystopie, et c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait notre cerveau il a tendance à partir dans la dystopie, et que parce que c'est dur de faire abstraction de ce qui se passe réellement. Effectivement que les frontières entre théâtre jeune public et théâtre tout public soient bien plus poreuses, que les questions de minorité ne soient plus des questions, qu'on ait vraiment un panel vraiment magnifique et représentatif de notre société au plateau. Que les chiens soient heureux dans les théâtres, que... pardon, j'ai fait une blague personnelle. Que les formations... qu'on n'ait plus besoin de faire des formations anti-burnout parce que le burnout n'existerait plus. Que des formats de direction de lieux soient réinventés avec, effectivement, des artistes qui viendraient proposer des choses, mais... Effectivement, on a vu hier que être que artiste avec direction d'un lieu, c'est compliqué parce que c'est pas... Enfin, en tout cas, y en a qui le font très bien, mais ça peut être très compliqué pour d'autres et j'en fais partie. Donc, que ce soit super et qu'on se prenne moins la tête.
Et tu parles donc des frontières plus poreuses entre théâtre, jeune public ou pour la jeunesse et tout public. Ça se matérialiserait comment ? C'est quoi cet idéal ?
Ça se matérialiserait de justement pas voir les enfants comme des êtres primitifs, comme on a pu entendre, et comme des êtres pensants, que les artistes ne fassent pas forcément des spectacles jeunes publics pour faire leurs heures d'intermittence, comme je peux voir parfois. Et qu'on se pose la question d'une sorte d'accessibilité, comment dire ? C'est prétentieux, peut-être, je sais pas trop si c'est prétentieux, mais en tout cas, moi, je sais que dans ma façon de faire des spectacles, je me pose pas plus la question que ça, savoir si c'est un spectacle jeune, public ou quoi. Et justement, ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'être inspiré par tout type de spectacle pour ma propre créativité, c'est-à-dire que je ne vais pas voir du tout que des spectacles jeunes publics, je vais voir tout type de spectacle et que tous les types de spectacles m'inspirent fort pour mes créations qui sont aussi visibles à partir d'un certain âge. Mais voilà, qu'on se pose cette question co-générationnelle, comme le nomme Séverine Coulon, je reprends à chaque fois son expression parce que je trouve ça intéressant aussi de voir comment selon l'âge auquel tu vois un spectacle, ça te parle ou ça te parle pas, et qu'on rende plus poreuses les frontières et qu'on se charge de dire des choses réelles aux enfants et pas forcément passer par la métaphore, par exemple.
Merci, Enora.
Merci à toi.